Les 129 premières catéchèses de Jean 22, vous savez, il est arrivé de Pologne à Rome avec un petit paquet sous son bras. C'était un livre qu'il était en train d'écrire. Un livre sur le sens de la famille, du couple. En l'espace de quelques mois en Pologne, il a célébré plus de 100 mariages. Donc il avait un contact régulier avec des couples, des confidences, et tout ça a fait mûrir en lui toute une réflexion sur à la fois la théologie du corps, quel est le sens du corps dans l'amour, et puis en même temps, quel est le sens du couple dans le projet de Dieu, et comment aider le couple à se construire, à se reconstruire, à guérir à travers ce plan de Dieu sur le couple humain. Il voulait publier ça en Pologne et distribuer, puis tout d'un coup, comme il est arrivé pape, il a pris ça et il les a donnés en première catéchèse. Alors, des catéchèses extrêmement ardues, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il donnait à la fin de son pontificat, où vraiment il donne un trésor extraordinaire sur le sens de la relation homme-femme. Je m'inspire aussi un petit peu de certains commentaires rabbiniques, les Midrash, sur l'interprétation des textes de la Genèse. On va retrouver quelques éléments qui se corroboraient avec ce qu'enseignait Jean-Paul II. Puis un troisième élément, une troisième source, ce sera les pères de l'Église. Puis en même temps, on va faire des liens avec notre vie actuelle, avec les éléments qui nous sont donnés chaque jour. Alors, à un moment donné, les pharisiens s'approchent de lui et lui disent, pour le mettre à l'épreuve, donc pour le tenter, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Jésus leur dit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes ?» Et qu'il a dit, ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Ce début de l'histoire d'amour entre Dieu et les hommes, cette origine dans laquelle s'enracine le mystère de la beauté, de la splendeur de l'être humain, de chacun et chacune d'entre nous, de nos premiers parents déjà, et puis de la splendeur du couple humain qui lui aussi est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Comment dans notre nature il y a un mode d'emploi du bonheur? Comment dans notre cœur de l'homme et de la femme, il y a un mode d'emploi du bonheur? Comment ce mode d'emploi du bonheur va-t-il se décliner, ou Dieu avait-il prévu qu'il se décline? Et puis ensuite, comment va-t-il se décliner aujourd'hui dans les difficultés qu'on peut rencontrer? Donc on va voir d'abord un petit peu cette Genèse, le texte de la Genèse, en essayant d'approfondir ce texte, et puis ensuite on verra un petit peu la conséquence après ce qu'on appelle le péché originel, cette brisure de l'alliance, cette cassure qui a blessé le cœur de l'homme et qui provoque beaucoup de souffrances. On verra que parmi les souffrances qui vont résulter, la première, c'est que Adam et Ève s'engueulent. C'est quand même incroyable, hein. Alors c'est intéressant parce que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, son image et sa ressemblance, on reprendra tout à l'heure ce texte. Il le créa homme et femme. C'est deux textes différents. Le premier texte, il créa l'homme, il le créa Adam. Adam, le glaiseux. Or, c'est intéressant de voir que Adam n'est pas le mâle, c'est pas le masculin. Adam, c'est l'homme et la femme, c'est l'humanité. C'est une sorte de substantif collectif. Donc Dieu créa homme et femme, il créa l'humanité. Il créa l'humain, si vous voulez, homme et femme. Et ensuite, à son image et sa ressemblance. Donc c'est l'humain qui a l'image et la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas l'homme masculin. On se rend compte qu'il y a, après la création de Adam, la création de tout le reste de l'univers. L'homme est créé et tout le reste de l'univers est donné à l'homme. Les bêtes des champs, tous les animaux, tout le jardin est créé. Et tout d'un coup, il y a une expérience bouleversante qui s'opère. L'homme se sent seul. Adam, pas l'homme masculin, pas le mâle. Adam, c'est-à-dire l'être humain se sent seul. Ah, c'est-à-dire l'homme et la femme se sentent seuls. C'est pas d'abord l'homme qui se sent seul, le masculin, vous comprenez bien. C'est Adam qui se sent seul, l'être humain se sent seul. Au cœur même du mystère de la création, avant même que tout d'un coup on arrive à distinguer ou à séparer l'homme et la femme, ça se fera juste après que Dieu distinguera, séparera, si vous voulez, l'homme et la femme. On verra comment cela va se faire et qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, il y a d'abord l'expérience d'une solitude fondamentale. Et ça, c'est quelque chose de capital à comprendre. Il n'y aura pas d'expérience authentiquement humaine s'il n'y a pas quelque part la résonance de cette solitude dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Dieu ne m'a pas créé une fois au départ, il ne cesse de me créer en quelque sorte, de me tenir dans la vie, de me tenir dans sa main. Cette expérience va me situer devant une liberté fondamentale qui sera placée avec le jardin de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, d'accepter ou de ne pas accepter cette dépendance à l'égard de Dieu et cette situation particulière dans l'univers créé n'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que mon choix de liberté, mon autodétermination par rapport à ça aura une conséquence ou la vie ou la mort. au cœur même de cette solitude, il y a l'expérience d'une liberté. Il y a l'expérience d'une liberté. Il va falloir assumer ma liberté au cœur de cette solitude. Et ça, c'est pour Adam et Ève. Il est créé à Adam qui fait l'expérience. Il n'est pas bon que Adam soit seul. Cette solitude, elle est à Adam. On construit toujours, puisque l'homme est seul, on va lui créer une femme, puis comme ça, ils seront ensemble. Non, c'est Adam qui fait cette expérience.